France Musique. C'est l'été sur France Musique.
Et il est temps d'accueillir notre invité du jour. Il est compositeur de musique pour l'image en grande partie du temps. Il s'appelle Mathieu Lambollet. Bonjour Mathieu.
Bonjour Clément.
Vous avez signé récemment la musique de Lupin, cette série dont la deuxième saison vient de sortir au début de l'été sur Netflix. Une série de Louis Leterrier, Hugo Gélin et Marcella Saïd. Alors c'est un peu, j'allais dire, c'est la partie émergée de l'iceberg parce qu'il y a 10 000 autres projets en cours récents. On va revenir sur tout ça. Mais c'est Lupin qui nous intéresse en priorité ce matin. Comment ça s'est fait? C'est Netflix qui est venu vous chercher?
Alors, non, en fait, c'est par l'intermédiaire de mon agent. Mon agent a entendu parler du projet. Et comme ça se fait assez régulièrement dans le métier, Netflix a voulu tester des compositeurs. Donc, ils ont fait un appel d'offres. Et donc, je faisais partie des compositeurs choisis. Et j'ai donc eu deux séquences sur lesquelles j'ai pu composer une musique. Et il se trouve que sur l'une des séquences, j'ai composé le thème principal de Lupin et ça a plu à Netflix. Donc,
c'est un peu comme les concours d'architectes, quoi.
Un petit peu.
Maquette et puis.
Exactement, on fait des maquettes. Alors évidemment, on n'enregistre pas de vrais musiciens, on fait des maquettes sur ordinateur, ouais. Mais pour donner un petit peu l'esprit de ce qu'on imagine sur la musique.
Alors c'est quoi les différentes ambiances, les couleurs, les genres musicaux que vous avez choisis pour la série Lupin? Parce que c'est un personnage qui est daté. À l'origine, début du siècle, mais qui est rendu contemporain par la série parce qu'il est actualisé dans le Paris d'aujourd'hui.
Oui, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand j'ai entendu parler de la série, je me suis évidemment intéressé au scénario et à l'approche même, de la réalisation. L'idée, c'est que je voulais transfigurer ça dans la musique, c'est-à-dire, comme vous le dites, cette approche à la fois historique. Donc il se trouve que moi j'ai un bagage classique issu de la musique du répertoire, donc j'ai voulu distiller quelques touches de répertoire de la musique symphonique classique tout en l'inscrivant dans une temporalité qui est contemporaine. En l'occurrence, j'ai utilisé des rythmiques un petit peu modernes, hip-hop, et je trouvais que le mariage entre les deux fonctionnait bien.
C'est un petit peu une chose qu'on retrouvait déjà quand vous aviez fait la musique du Retour du héros. Il y avait aussi cette multiple temporalité.
Oui, c'est ça. Sur le Retour du héros, effectivement, c'était un mélange de western, de son western avec de la musique baroque. Je trouve que s'il y a un lieu où on peut bien s'amuser, c'est dans la musique de film. C'est-à-dire que on peut tester plein de choses et je pense que de mélanger des esthétiques apporte une modernité, une originalité. Mmh. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que sur un film, c'est pas comme dans la musique de concert ou la musique contemporaine. Disons que l'esthétique reste assez formelle harmoniquement. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques musicaux, mais on a quand même un cadre duquel on ne peut pas trop sortir, puisque dès qu'on va faire des accords peut-être un peu compliqués, tout de suite ça va évoquer quelque chose avec l'image, c'est-à-dire une musique peut-être angoissante, ou alors dès qu'on fait un accord de septième, c'est jazz. Il y a des réflexes, enfin disons des inconscients collectifs qui nous amènent, voilà. Et donc au sein de comme ce cadre formel harmonique est assez figé, eh bien on s'amuse d'une autre façon, c'est-à-dire dans les couleurs, dans les mélanges, dans les orchestrations. Dans les thématiques.
Alors dans les thématiques justement, dans les thématiques qui caractérisent aussi les personnages, est-ce que comme Wagner, vous avez choisi des thèmes pour chaque personnage, des leitmotivs?
C'est exactement l'idée, oui, j'en parle souvent, c'est ça, il y a des inflexions mélodiques, enfin bon, il y a les thèmes, mais il y a quelques inflexions mélodiques qui correspondent, qui caractérisent les personnages. Et ce qui est intéressant dans la série, c'est que j'ai pu les exposer de façon assez claire sur les premiers épisodes et par la suite les développer, notamment sur une scène de l'épisode 10 qui est beaucoup plus symphonique et concertante, dans laquelle j'ai mélangé tous ces thèmes dans une symphonie qui est jouée au Châtelet.
Et le thème de Lupin, il est né comment? Il vous est venu d'un seul coup?
C'est compliqué. C'est les inspirations parfois. Oui, ça vient un peu comme ça. Il y a un petit côté. Il y a quelque chose d'assez chromatique et un peu sinueux dans les contours mélodiques du thème. Je pense que c'est d'une certaine façon le personnage qui m'a inspiré ça. Oui.
Lupin, ce gentleman cambrioleur.
Thank you.
Lupin, un extrait de la bande originale de la série du même nom. La musique est signée Mathieu Lambollet. La série est sur Netflix. La deuxième saison est sortie tout début juillet. Mathieu Lambollet, est-ce que c'est très différent de travailler pour un film, un long métrage, et de travailler pour une série avec plein d'épisodes, des heures entières de films?
Alors oui, effectivement, c'est différent dans la mesure où il y a beaucoup plus de musique. Là, sur Lupin, il y a peut-être 400 minutes de musique sur la première...
400 minutes de musique
On se rend pas forcément compte, mais il y a entre 35 et 40 minutes de musique par épisode. D'ailleurs, c'est intéressant parce que parfois, on me dit « Ah bon, j'ai pas remarqué la musique, il y a autant de musique. » Finalement, je le prends comme un compliment, puisque quand la musique s'inscrit parfaitement avec l'histoire, c'est ce qu'on recherche quand on écrit de la musique de film.
400 minutes de musique, j'espère que vous n'êtes pas tout seul. Vous avez des gens qui faisaient un atelier.
À composer, non, j'ai envie de dire malheureusement, mais non, c'est pas vrai. Non, je suis très content de composer tout seul. Mais effectivement, après, quand il s'agit d'enregistrer, de mixer, de monter, parce qu'évidemment, disons que dans une série, il y a certains passages qu'on va quand même réutiliser, mais pas de la même façon en fonction des passages, mais je travaille avec des gens. Je suis pas tout seul à tout faire. Non, c'est impossible dans ce métier-là. On peut pas tout.
Comme Michel-Ange à l'époque, il avait son atelier.
C'est-à-dire que oui, pour produire de la quantité, il faut quand même être voilà.
Bien sûr. D'ailleurs, comment ça fonctionne? On vous envoie toutes les images avant, toute la série montée avant, et puis on vous dit travailler de là-dessus, ou on vous demande parfois de la musique.
Oui.
Sans que vous sachiez très bien ce qui va se passer.
Justement, vous me demandiez la différence. J'ai pas répondu à votre question entre peut-être un long métrage et une série, c'est essentiellement ça. C'est-à-dire que sur un long métrage, on va généralement travailler très très en amont, enfin ou tout du moins pendant le montage et main dans la main avec le réalisateur. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de versions de montage, on va tester des choses sur certaines scènes. Le réalisateur va venir au studio, nous dire là tu es sûr que tu préfères pas qu'on fasse ça, etc. Là sur Netflix, comme il fallait aller très vite, on recevait les épisodes montés avec pour certains épisodes des musiques que j'avais composé parfois sur les premiers épisodes, mais bon, qui fonctionnaient pas forcément, donc je réajustais. Mais disons que j'avais les musiques, les épisodes déjà montés, et je composais là où je voulais de la musique. J'envoyais ça sur une plateforme sécurisée, puisque évidemment tout ça c'est très très voilà,
surveillé, bien sûr, pas qu'il y ait de fuite.
Non, exactement. Et ensuite j'avais la validation d'une part du réalisateur, des producteurs Gaumont et Netflix, et ou des retours, c'est-à-dire en fonction des passages, peut-être Netflix m'envoyait un mail en disant là il faudrait que ce soit un peu plus mystérieux. Voilà, c'est tout.
C'est vraiment travail à la chaîne.
C'est travail à la chaîne, mais à la fois il y a une grande liberté, parce que là où sur un long métrage, parfois, un réalisateur va nous enquiquiner à la note près. On a une grande latitude, pour interpréter le mystérieux posé par Netflix sur une séquence. Donc, c'est intéressant.
Mathieu Lambollet, vous disiez tout à l'heure, oui, quand je dis qu'il y a 400 minutes de musique, les gens s'en rendent pas forcément compte. Ça me fait penser à cette anecdote de George Lucas, le réalisateur de la saga Star Wars, qui avait dit à un de ses monteurs un jour qu'il s'arrachait les cheveux sur une scène d'effets spéciaux. De toute façon, ne vous inquiétez pas, les gens ne regardent pas les effets, ils écoute la musique. Alors, est-ce que c'est le cas dans Lupin? Est-ce que vous sentez qu'à certains moments, c'est votre musique qui est le personnage principal ou qui prend en charge un certain nombre d'émotions?
Ce serait peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais...
De manière générale,
à mon sens, la musique a quand même un rôle, et c'est bien d'en parler. D'ailleurs, je vous remercie d'inviter dans cette émission
des Georges Lucas.
Non, mais c'est bien de parler de musique de film, effectivement, parce que on est considéré comme un des auteurs du film. On est trois avec le scénariste et le réalisateur. Et effectivement, la musique a son rôle, c'est-à-dire que parfois il faut faire l'expérience, on le fait très rarement, mais de mettre une scène sans musique et puis mettre la musique après, on se rend compte que la scène prend une autre dimension et on peut très bien la rendre absolument terrifiante comme imprégnée d'une émotion telle qu'on a envie de pleurer c'est pour ça d'ailleurs que les réalisateurs ont peur parfois des compositeurs. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des réalisateurs qui aient peur dès que je rajoute un accord, parce que ça change complètement le propos et l'image et donc il y a un vrai pouvoir, c'est sûr. Et je pense que dans Lupin, j'ai en tout cas cherché à créer une identité et qui, je l'espère par la suite, s'inscrira dans les autres saisons.
Alors on va signaler quand même une chose, c'est que la bande originale de Lupin, vous l'avez enregistrée avec l'Orchestre National d'Île-de-France. Oui. C'est l'instant cocorico, parce qu'on a l'impression que toutes les musiques de films aujourd'hui sont enregistrées avec des orchestres d'Europe de l'Est. orchestre, voire sans musicien, parfois avec des sons de synthèse. Alors bon, vous nous expliquez, enfin vous nous démontrez, Mathieu Lambollet, que c'est possible. On peut faire de la musique de film avec les orchestres français.
C'est possible. Après, je mesure vos propos, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout enregistré non plus avec avec l'Ondif. On a effectivement, on trouve des solutions. C'est-à-dire bon là, après il y a certaines considérations budgétaires qui sont pas indéniables. Mais j'essaye au maximum d'enregistrer avec des musiciens en France, puisque on a d'excellents musiciens et je trouve dommage de pas en profiter.
Mathieu Lambollet, qu'est-ce qui se passe ici? C'est la scène des diamants, hein, ça.
C'est la scène des diamants, oui. C'est là, je me suis amusé à mélanger une sorte d'électro James Bond, Stravinsky. J'avais envie de, comme vous parliez de mélange tout à l'heure, mais j'aime bien faire des mélanges. Et là, je trouvais intéressant d'apporter le côté rythmique de musique moderne qu'on pouvait l'avoir sur le sac du printemps, par exemple. On l'entend un petit peu avec des rythmiques électro.
C'est un peu de la mixologie tout ça,
hein. C'est un peu du cocktail. C'est de la mixologie.
Mais le cocktail, ça peut être raté. Ouais, là, en l'occurrence, ça marche.
Mais c'est gentil.
Mathieu Lambollet, la musique de la série Lupin, dont la deuxième saison est sortie sur la plateforme Netflix au début du mois de juillet. Alors, il n'y a pas que ça, je disais tout à l'heure, il y a un millier d'autres projets. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, comment on accepte un film ou est-ce qu'on refuse parfois un film? Sur quels critères? Ça vous arrive de dire non parfois?
Ah oui, ça m'arrive de dire non.
On vous sollicite pas mal, hein, maintenant,
ces
derniers temps.
Oui, c'est vrai qu'en surtout cette année, là, c'est vrai que ça, il y a beaucoup, beaucoup de propositions. J'avoue que j'ai du mal à dire non, hein, parce que.
C'est pour ça que vous avez autant de projets.
Oui, peut-être. Non, mais c'est vrai que chaque projet, alors généralement, on lit le scénario, hein. C'est ce que je fais, je lis le scénario, je regarde la configuration aussi, les acteurs, si le film est juste un projet et qu'il n'a pas l'intention de se faire, enfin, je vais pas m'engager sur quelque chose, voilà. Mais globalement, c'est pas évident de dire non, puisqu'il y a beaucoup de beaux projets qui se font. Et c'est aussi, j'accepte quand je rencontre les réalisateurs et que je sens qu'il y a, une vraie fibre artistique et qu'on peut bien s'entendre. Parce que quand même, composer de la musique de film, c'est avant tout une collaboration avec un réalisateur. Donc si dès le départ, ça fonctionne pas, ça sert à rien de s'engager sur quelque chose qui risque d'être compliqué, quoi.
Ouais. Alors, il y a eu récemment la musique du film de Wistram, qui était l'adaptation du livre d'Emmanuel Carrère, un film qui était présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Vous y étiez?
Oui, j'y étais.
Alors ça oui. Est-ce que le film a été bien reçu?
Le film a été très très bien reçu et la musique aussi, ça fait plaisir, parce que c'est vrai qu'on remarque pas souvent la musique, et là j'ai eu beaucoup de très bons retours et je me suis vraiment amusé à composer cette musique. Enfin, amusé, c'est peut-être pas le mot, mais disons, j'ai pris du plaisir à travailler avec Emmanuel. Et je crois que le film sort en janvier et j'espère que les gens pourront en profiter pleinement.
Ouais, c'est comment le Festival de Cannes? On dort pas beaucoup, j'imagine?
Alors, à vrai dire, moi, c'était la deuxième fois que j'y allais, mais j'y suis allé il y a une dizaine d'années, je connaissais pas très bien. Alors non, j'ai très bien dormi, parce que je suis pas allé aux soirées.
Il n'y a pas de fête.
Non, mais j'ai pas fait de fête.
Ils disent tout ça. Alors, on voit toujours des images. Alors, avec des grandes fêtes. Et puis quand on interview les gens, ils nous disent oh non, moi je, vous savez, je vois les films à 8h du matin et je vais pas du tout aux soirées.
Mais c'est vrai. Non mais le pire c'est que c'est vrai. Je suis resté deux jours, donc il y a l'avant-première, un dîner, et après voilà, à minuit, une heure, on est au lit. Enfin moi je suis pas allé aux fêtes, il y avait pas d'ambiance cette année.
Bon, en tout cas il y a moins de pression en tout cas pour les compositeurs, parce qu'il y a pas de prix à Cannes pour la musique.
Alors oui,
film.
Ça j'espère que ça va changer. Je crois que les lignes vont bouger un petit peu. Bah ce serait bien quand même, comme on le disait tout à l'heure, la musique est auteur. Enfin on est auteur quand on compose de la musique, et puis elle a quand même son. Enfin je pense qu'elle aura une place à Cannes.
Bah oui, on espère. Alors ça, c'est juste un extrait de cette grande symphonie de Lupin. C'est dans la saison 2, c'est une scène importante. On va pas tout dévoiler, Mathieu Lambollet. La série est disponible sur Netflix. D'ailleurs, je crois que vous apparaissez dans la saison 2. C'était prévu,
oui.
Ça ?
Alors non, c'était pas du tout prévu, mais ça s'est fait comme ça. J'ai un tout petit rôle à l'épisode 10, voilà, sur cette fameuse scène avec la symphonie qui se passe au Châtelet. Mais on va pas en dire plus.
On va pas tout dévoiler. Est-ce que ça vous donne envie de développer une carrière d'acteur, Mathieu Lambollet ?
Ah oui, tout à fait. mais honnêtement, je pense que je ne pourrais pas être acteur dans la mesure où il faut savoir que ça fait rêver les gens, mais ce qui se passe concrètement, c'est qu'on attend. On attend sur un plateau de tournage, c'est l'horreur. C'est on passe 10 heures, on boit des cafés, tout d'un coup, les acteurs, enfin je là en l'occurrence, je suis un tout petit rôle, mais pour les acteurs, c'est ça, c'est hop, il faut être tout de suite on the set 10 secondes et hop, et après on retourne dans sa loge, on attend pendant des heures, c'est terrible.
C'est un horrible métier, ça, que vous décrivez. Mathieu Lambollet, vendredi, je recevais Vladimir Kosma à votre place, autre grand compositeur de musique de film. C'est un modèle pour vous, vous l'avez rencontré déjà?
Ah bah, je l'ai rencontré effectivement il y a très longtemps. C'est un grand. Donc voilà, moi je le connais pas personnellement, mais moi je connais ses musiques évidemment.
Ouais. Votre carrière, elle était déjà bien lancée, Mathieu Lambollet. Bah, alors là, avec le succès planétaire de Lupin, c'est incroyable, hein, la série française la plus regardée aux États-Unis, dans le pays quand même de Netflix. Alors là, vous allez bientôt monter votre studio à Los Angeles, non?
Alors c'est pas prévu, mais en l'occurrence, effectivement, j'ai un agent américain maintenant. Ouais. Donc voilà, bah, l'idée c'est de voir si certains projets peuvent venir par des États-Unis, mais après moi j'ai pas forcément le rêve américain absolu. C'est-à-dire que je trouve qu'on fait des très bons films en France et j'accepterais tout type de projet qui viennent des États-Unis ou de la France.
Et puis vous avez déjà pas mal de boulot. Est-ce qu'on peut dire quelques projets qui sont en cours?
Oui, complètement. Effectivement, là en ce moment je travaille sur Juste Ciel, donc le prochain film de Laurent Tirard. je travaille également sur Les Têtes Givrées, un très beau film de Stéphane Cazès avec Clovis Cornillac. Et par la suite, j'ai un autre projet prévu avec Gamblin et Dussolier, donc Le Tigre et le Président. Mmh. C'est un très beau film. Et,
film de Jean-Marc Perfitte.
Voilà, Jean-Marc Perfitte. Après, il y a... il y a d'autres projets, mais
il y a plein de choses, on peut pas encore parler. Évidemment. Et bon, on va se quitter, Mathieu Lambolet, si vous voulez bien, avec votre toute première musique de film de l'histoire, de votre carrière.
Libre. La première de long métrage en France. Mais c'est effectivement Libre et Assoupi qu'on avait. Alors ça, c'est alors pour commencer, c'était la plus belle expérience puisque j'ai pu enregistrer à Abbey Road avec le LSO. J'avoue que ça m'a tout de suite donné envie de continuer.
Et ben, on va en écouter un extrait. Merci d'être venu nous voir ce matin sur France Musique.
Merci.
La marche tranquille, c'était le générique de Libre et Assoupi. La musique est de Mathieu Lambolet, qui a signé aussi la musique de la série Lupin, qui est à voir sur Netflix. Netflix, où d'ailleurs sera disponible dans quelques jours maintenant, le 30 juillet, c'est dans 4 jours, ce sera jeudi. Le film Le Dernier Mercenaire, long métrage avec Jean-Claude Van Damme et David Charbon. Ce sera donc à retrouver dans quelques jours. Plein d'autres projets. Le Retour du Héros, j'en ai parlé, on s'était d'ailleurs vu à l'époque avec Mathieu Lambolet dans la matinale du samedi matin, avec toujours ce côté très héroïque dans sa musique d'ailleurs. Et c'est la fin de cette émission. Alors après George Lucas de Star Wars qu'on évoquait tout à l'heure, il y a Georges Lacaux de Villeurbanne qui fait partie de nos gagnants ce matin, avec Bernard Claude de Nivillac dans le Morbihan et Anne-Marie Vallet de Voiron, c'est dans l'Isère. Tous les trois recevront un extrait, non pas un extrait, mais le disque entier, Mantra de Stockhausen, avec Jean-Frédéric Neuburger et Jean-François Esser. Alors la réponse à la question du jour, c'était le quatuor Arditi, à l'origine la commande du festival de Salzbourg, d'un quatuor à cordes de Stockhausen. Le festival de Salzbourg s'était finalement montré un peu timide, et c'était l'année suivante, en 95, qu'Helicopter Streich Quartet avait été créé au Holland Festival d'Amsterdam. Les Néerlandais avaient moins froid aux yeux que les Autrichiens en voyant ces quatre hélicoptères avec chacun des membres du quatuor jouant à bord de l'un des quatre hélicoptères. C'est un truc un peu fou. Voilà. Allez, bien sûr, vous restez à l'écoute de France Musique. La journée commence à l'instant, c'est-à-dire à 9h, avec Charlotte Landru-Chandès cette semaine pour l'été classique. Bonjour Charlotte.
Bonjour Clément.
Charlotte, le programme du jour ?
Eh bien, aujourd'hui, on va rêvasser en compagnie de compositeurs connus, Gounod, Debussy, Wagner, aussi moins connus, par exemple Anton Rubinstein, et à 11h, coup de projecteur sur la mezzo-soprano Anne-Sophie von Otter.
Ah, bah vous aurez une mezzo-soprano, on en aura une nous aussi demain, Charlotte Landru-Chandès, puisque je serai en compagnie de Lucille Richardot pour parler de son été musical et aussi d'un projet autour des cantates inédites d'Alessandro Scarlatti. Je vous retrouve donc demain matin, dès 7h30 sur France Musique. Le temps pour moi de remercier toute l'équipe du jour, Laure Poissonnier et Lara Castiglione qui ont préparé cette émission, réalisée par Taïsia Froidure avec à la technique ce matin Maxime Deperetti, Fred Kiefer et un certain AB. Je vous souhaite une très bonne journée sur France Musique. Je vous dis à demain et je vous embrasse.
À réécouter sur francemusique.fr.